Super. Le message de ce soir, ce sera comment Dieu a décidé de bénir les Packers de Green Bay. Non, excusez. Donc, vous savez pour qui je prends. Vous savez, la fameuse histoire du verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide? Lorsqu'un verre d'eau est à moitié plein ou à moitié vide, l'idée, c'est qu'on peut toujours y rajouter quelque chose. Mais un verre d'eau entièrement plein, jusqu'à rebord, on ne peut pas en rajouter rien d'autre. Ce que j'avais l'intention de vous parler ce soir, c'est l'obéissance d'un homme. Ça nous montre un homme qui était parfaitement obéissant à ce que Dieu lui a demandé. Il a gardé son verre d'eau entièrement plein. Il ne pouvait pas rajouter désobéissance par-dessus. Ce que l'histoire nous mentionne de Néhémie, Néhémie n'était pas un homme parfait, mais dans ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a bien accompli. Et il a gardé son esprit ouvert à Dieu. J'aimerais qu'on lise d'abord dans Néhémie, à partir du verset 1, quelques versets pour nous mettre en contexte. Néhémie, chapitre 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kesleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements. Les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour vous y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Si on regarde la vie de Néhémie, Néhémie a conduit ce peuple à un réveil. Néhémie a sorti ce peuple des vieilles habitudes et des vieilles désolations qu'il vivait. Mais est-ce que c'est bien Néhémie qui l'a fait? Ou si c'est Dieu qui l'a fait par Néhémie, plutôt. Et l'homme a été utilisé par Dieu afin que son peuple revienne à lui. Une étape importante dans la vie du peuple d'Israël. Israël avait été dispersé par les Babyloniens et par les Assyriens 70 ans plus tôt. La Perse avait envahi ces pays-là. Maintenant, ils étaient sous la domination des Perses. Mais Dieu ne désire pas que son peuple reste dans cette situation. Il veut que les choses changent. Il va opérer un bouleversement de situation. Il va les emmener à reconstruire une ville, reconstruire des murs, retrouver leur identité et leur redonner une valeur. On peut voir dans Néhémie, si vous lisez le livre de Néhémie, vous pouvez voir un homme exceptionnel, un homme doué. Wow! C'est un héros. Pourtant, cet homme-là, c'est un homme qui ne fait que parler à Dieu. C'est un homme qui ne fait qu'écouter Dieu. Et c'est un homme qui ne fait qu'obéir à Dieu. Je me rappelle une phrase, certains hommes citent des phrases qui restent longtemps dans les cerveaux. Dans mon cerveau, en tout cas, il y a une phrase que M. Decker avait dit ici, il y a des années lorsqu'il était venu. M. Decker avait dit, « Il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Il n'y a que des petits hommes avec un grand Dieu. » Et c'est ce que Dieu, et c'est ce que Néhémie est. C'est un homme ordinaire. C'est un homme que si on avait la capacité d'aller dans les temps, on reculerait dans les temps et on verrait un homme comme vous et moi. Il pourrait être assis là au milieu de la salle à m'écouter. Ou il pourrait être ici en haut en train de parler. Mais il serait un homme qui ne serait pas particulier, il n'y aurait pas un aura particulier ou une capacité au-dessus de toutes les capacités. Un homme ordinaire. Il s'appelait Néhémie, mais il aurait pu s'appeler Trevor. Ou il aurait pu s'appeler Gabriel, ou Raphaël, excuse-moi. Ou il aurait pu s'appeler Claudine. Néhémie était un homme obéissant, qui était utilisé par Dieu, et conscient qu'il était utilisé par Dieu. Et ça, c'est important. Parce que Dieu utilise tous les hommes. Dieu est au-dessus de tous les hommes. Dieu a utilisé le roi. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Dieu a utilisé le roi. Dieu a même utilisé les ennemis de Néhémie. Mais personne n'était conscient qu'ils étaient utilisés par Dieu. Néhémie était conscient que Dieu l'utilisait. Il était obéissant dans le fait que c'était un homme de prière. Ces quatre points-là, j'aimerais les voir dans ma prédication. C'était d'abord un homme de prière. Et c'est un aspect si négligé dans notre vie, et c'est un aspect si important d'être un homme de prière. C'était un homme visionnaire. C'était un homme qui avait une vision. C'était un homme qui avait un but. Il voulait accomplir quelque chose de précis. Et il n'était pas à dire, je vais servir l'Éternel. Comment? Je ne sais pas. Il avait un but. Il voulait faire quelque chose. C'était un homme impliqué aussi avec les autres, avec ses contemporains, avec ceux autour de lui. Ce n'était pas un homme solitaire qui ne voulait rien faire ou qui voulait tout faire, mais seul. C'était un homme engagé auprès de ceux qui l'entouraient. C'était aussi un homme résolu dans les adversités. Ça vous arrive des fois d'arriver à un échec et de dire, « Ah, je laisse tomber, c'est trop dur. » Il n'était pas comme ça, Néhémie. Néhémie était un homme résolu. Malgré les adversités, il allait jusqu'au bout. Et le projet de Dieu qu'il voulait faire par Néhémie, c'était de rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient sous la domination perse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Rebâtir les murailles d'une ville. C'est pas juste de dire, bon, ben, je vais engager un contracteur, puis il va me bâtir des murs, des portes, puis ça va être fini là, ça va être beau, on va mettre une belle couche de peinture. C'est pas ça. L'idée de rebâtir une muraille, les murailles de Jérusalem, ça amenait l'idée d'une rébellion. Lorsque les murs étaient rebâtis, les Perses voyaient ça comme une rébellion. Les gens devaient se rebeller parce qu'ils bâtissaient des murs. Donc, ils devaient aussi se défendre. Donc, c'était quelque chose d'impossible de rebâtir les murs de Jérusalem sous la domination perse. Impossible à vue d'homme. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des choses impossibles à vue d'homme à faire dans votre vie? Mais Néhémie voyait quand même. Il était dans la désolation car les murs étaient à terre et les gens du peuple étaient au comble du malheur et de l'opprobre. Et il avait dans son idée de rebâtir les murs. Si on situe l'histoire de Néhémie, normalement, le livre devrait être un des derniers livres du Ancien Testament. Néhémie, chronologiquement, arrive vers la fin. À la suite de Néhémie, il y a les 400 ans de silence avant la venue du Seigneur. Donc, pourquoi il n'est pas à la fin? C'est tout simplement parce qu'il est placé dans les livres historiques. Et ensuite, on passe dans les livres poétiques. Et c'est plutôt divisé par thème au lieu que ce soit divisé chronologiquement. Et Néhémie pourrait être placé avec Malachie. Il était contemporain à Malachie. Il y avait eu une déportation et 70 ans plus tard, Dieu dit, mon peuple va revenir dans sa ville et je vais rebâtir les murs. Donc, Néhémie était ce leader de la troisième phase du retour des Juifs où la première phase, les deux premières phases ont été de Zorobabel et de Esdras. Esdras qu'on voit dans le livre juste avant, qui eux ont opéré deux retours. Et Néhémie est dans la troisième phase du retour et il est prêt à rebâtir les murs. Le temple est déjà reconstruit sous Esdras. D'ailleurs, c'est Esdras qui aurait écrit le livre de Néhémie. Il aurait pu s'intituler Esdras 2, si vous voulez, mais ils ont décidé d'appeler ça Néhémie. Néhémie était un homme qui reconnaissait que Dieu travaillait dans sa vie. Néhémie reconnaissait Dieu dans sa vie et ce qu'il accomplissait venait de Dieu. On lit au chapitre 1, au verset 10, il dit « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Et au chapitre 2, au verset 8, il dit « Et une lettre pour Asaph, et Néhémie a demandé au roi des lettres, parce qu'il devait avoir des lettres s'il voulait avoir ce qu'il avait de besoin, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occupais. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Ce petit bout de phrase est important. Ça transmet les idées profondes de Néhémie. Néhémie n'a jamais pensé que c'était parce qu'il avait eu le courage de demander au roi. Il était conscient que Dieu travaillait dans sa vie derrière lui et que Dieu était en avant de lui et chaque côté de lui, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Plus tard, au verset 12, il va le répéter. Au verset 12, ce que mon Dieu m'a donné au cœur de faire. Il va citer, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait dit au cœur de faire pour Jérusalem. Ce qu'il avait dans le cœur venait de Dieu et Néhémie était conscient de cela. Plus loin, au verset 18, il va dire à ceux qui l'entourent, je racontais à tout le monde comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Ça devenait un discours continuel. C'était Dieu qui travaillait en Néhémie et ce n'était pas Néhémie qui travaillait. C'était Dieu et il savait, Néhémie, que les portes étaient pour s'ouvrir parce que Dieu le voulait. Il connaissait la volonté de Dieu. Et ensuite, au verset 20, il va dire, « Le Dieu des cieux nous donnera du succès. » Il y avait cette foi en Dieu, là. Au chapitre 4, au verset 15, Dieu anéantit les projets des ennemis. C'est Dieu qui garde. Et constamment, tout au long du livre, Néhémie reconnaît l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Afin qu'on ne s'enfle pas d'orgueil. afin qu'on ne se dise pas à nous-mêmes, « Ah, je suis bon, j'ai réussi cela. » Et c'est facile de le faire. C'est facile de dire, « J'ai réussi quelque chose. » Mais pourtant, c'est Dieu qui nous donne de le faire. Dieu nous donne le vouloir et le faire. C'est vrai aujourd'hui, c'est encore vrai aujourd'hui, que le principal acteur de nos vies, c'est Dieu. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous donne de travailler à son œuvre. Et Dieu veut travailler à notre obéissance. Dieu veut travailler lorsque nous lui sommes obéissants. Le livre nous montre l'action de Dieu à travers l'obéissance de son serviteur. Lorsque on dit que Néhémie est un homme de prière, à 11 reprises dans le livre de Néhémie, Néhémie prie. Ce livre-là a été écrit avec les mémoires de cet homme-là, de Néhémie. Je suis convaincu que dans toute sa vie, il a prié plus que 11 fois. Mais à 11 reprises, dans 13 chapitres, Néhémie a prié. C'est-à-dire qu'à les étapes importantes de sa vie, il a souligné qu'il priait. Il a souligné qu'il s'en remettait à son Dieu. D'ailleurs, son livre commence par la prière et se termine par la prière. Il n'a jamais cessé de prier. Dans le texte que je viens de lire, on réalise que Néhémie connaît Dieu. Il le connaît. Il ne prie pas un Dieu lointain qui ne sait pas si. Il le connaît dans les détails. Et il prie un Dieu qu'il connaît. Car il a une relation avec. J'ai retrouvé, c'est-à-dire par le fameux Facebook, que j'ai commencé à peine à vouloir me familiariser avec cet engin-là. Il y a un de mes amis qui m'a retrouvé. Ça faisait 30 ans que je ne l'avais pas vu. C'était un ami de jeunesse, là. Ça faisait 30 ans que je ne l'avais pas vu. Il m'écrit sur Internet, puis il me dit, « Est-ce que tu es celui qui ta-ta-ta-ta-ta-ta? » Puis il me décrit un peu, je réponds, je dis, « Oui, c'est moi. » Puis là, je dis, « Ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu. Je le connaissais dans le temps. Il y a deux semaines, j'étais chez lui. Ça fait 30 ans que je n'ai pas vu. J'ai déjà eu une relation avec cette personne-là. Puis là, il parlait, je reconnaissais sa voix, je reconnaissais ses expressions, je reconnaissais son franc-parler, mais c'est tout. Je ne pouvais pas dire que j'avais une relation avec cette personne-là. Il n'y a rien qui a été entretenu. Si on recule, il y a 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 30 ans. Une relation, le mot le dit, c'est une relation. Et si vous arrêtez d'avoir cette relation-là, vous allez arrêter de connaître la personne. Et c'est la même chose pour Dieu. Lorsqu'il dit dans l'épître de Jean, celui qui pratique le péché n'a pas connu Dieu, n'a pas vu Dieu. Celui qui arrête sa relation arrête de connaître Dieu dans ses points intimes. Dans ce que Dieu veut te montrer. Cette relation-là par la prière est excessivement importante pour la croissance du chrétien. Elle était importante pour Néhémie. S'il voulait obéir à Dieu, il devait connaître sa volonté. Et s'il voulait connaître sa volonté, c'était en priant. C'était en lisant et en priant. Il cherche et voit la volonté de Dieu. Et on se demande souvent, Douglas avait fait une prédication il y a quelque temps sur comment je dois faire pour connaître la volonté de Dieu. C'est simple comme question. Lis. Prie. Tu vas connaître la volonté de Dieu en priant. Et en lisant. Car tu vas avoir une relation avec Dieu. Et Dieu va te montrer des choses. À chaque fois que tu rouvres ta Bible, que tu la médites, que tu arrêtes sur un passage, que tu prends du temps pour Dieu, Dieu se manifeste à toi et Dieu se fait connaître. Cherche et vois la volonté de Dieu dans toutes les situations. Et Néhémie l'a fait lorsqu'il était dans la désolation. Lorsque le roi lui a dit, « Que demandes-tu? » Et immédiatement, Néhémie, « Je priais le Dieu des cieux. » Là, c'est le roi de Perse qui lui demande à son échanson, « Qu'est-ce que tu veux? Là? Pourquoi t'es paru devant moi triste? Qu'est-ce que tu désires? » Et si le roi avait été moindrement de mauvaise humeur, probablement que l'échanson aurait eu la tête tranchée. Mais imaginez, il demandait que les murs soient érigés. Les murs de Jérusalem soient érigés. Il savait qu'il le demanderait. Oui, j'aurais prié Dieu des cieux, moi aussi. Mais il savait en même temps que c'est le Dieu des cieux qui répondrait pour lui. Et il n'a pas eu cette peur. Il a dit, « Si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Voilà. C'est dans ta cour, le roi. Maintenant, c'est ce que Dieu me dit de te dire. Et lorsqu'il avait la crainte, au chapitre 2, verset 2 et au verset 4, et au verset 4, c'est ce que je viens de mentionner, mais dans l'adversité, au chapitre 4, au verset 4 et 5, lorsqu'il dit, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête, livrez-les au pillage, sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. » Et comme ça, jusqu'au verset 9, où il dit, « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. » Avant d'établir une garde, d'abord, priez notre Dieu. C'était un homme de prière. C'était un homme qui connaissait Dieu, car il priait Dieu. On a une formation en counseling biblique, c'était hier justement, et ça m'a ébranlé. La meilleure manière de se connaître soi-même, c'est de connaître Dieu. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas te connaître toi. Plus tu vas savoir quoi faire. Parce que Dieu va te révéler même des choses que toi-même, tu ne sais pas sur toi. C'est surprenant. Je vais chercher à me connaître moi-même. Et la meilleure manière, c'est de connaître Dieu. Et Dieu va te le révéler. Comment tu es. C'est un homme de prière qui connaissait Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande de le connaître. C'est là la vie éternelle. C'est un homme de vision aussi. Un homme de vision, il risque sa carrière pour sa vision. Il risque peut-être même sa vie. Premièrement, il paraît devant le roi triste, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Et deuxièmement, il demande quelque chose au roi qui est contre sens. Mais la vision de Dieu primait dans son cœur. Il décide de délaisser les conforts du palais. Néhémie était échanson du roi. L'échanson du roi, c'était celui qui servait le vin au roi. C'était celui qui goûtait le vin que le roi buvait. Puis j'imagine que le roi ne devait pas prendre du notre vin maison, là, qu'on prend, là, ça devait être du vin de qualité. Et lorsqu'il paraissait devant le roi, il ne devait pas être en guenille. Donc, Néhémie était bien traité. C'était d'ailleurs celui qui était le confident du roi. Il y avait une belle job, à une belle place. Il ne souffrait pas de la faim et il ne souffrait pas du froid. Il était bien placé. C'était un homme important. Et c'était un homme respecté. Mais sa demande fait en sorte qu'il va délaisser tout ce confort. Mais ce qui était important, c'était la vision de Dieu. C'était primordial pour lui. Il prend même la décision d'aller vers l'inconnu. Il délaisse ce château pour s'en aller vers une ville délabrée. Les murs jetés par la guerre. Des hommes et des femmes en désolation. Et lui, il s'en va au milieu de ça. Mais ce qui était important, c'était la vision. Pour certains qui étaient là dimanche matin, vous avez entendu Gabriel qui veut s'en aller à Saint-Anne-des-Monts. Gabriel est un visionnaire. Il a eu une vision. Il a eu un but. Il dit, Dieu m'appelle là. J'ai cette conviction que Dieu m'appelle là. Et il a encore cette vision. Est-ce que vous avez une vision? Oh, on n'est pas tous appelés à aller dans une autre ville ou dans un autre pays, dans une terre missionnaire. Mais est-ce que vous avez déjà demandé, Dieu, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Où est-ce que je me vois dans 5 ans d'ici? Là? Où je m'en vais avec toi, Dieu? J'espère que je ne viens pas juste puncher à l'église, mettre ma dîme puis m'en retourner chez nous. J'espère que ce n'est pas juste une habitude que je viens ici pour satisfaire mon égo. Mais est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que j'ai un but avec toi, Dieu? Néhémie en avait un, Gabriel en a un aussi. Est-ce que vous avez trouvé le vôtre? C'était un homme aussi qui était proche des autres. C'était un homme qui avait une valeur. Il n'hésite jamais à raconter les exploits de Dieu. Au verset 18 du chapitre 2, « Et je leur racontai comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. » Et au verset 20, il dit, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » C'est un homme qui transmet son enthousiasme. Je crois cela et je le crois. Assez pour vous le dire. J'ai cette confiance en Dieu. Là. Et il implique les gens. Et même tout le peuple. Si vous lisez le chapitre 3, vous allez voir ceux qui ont bâti. Le chapitre 3, le verset 1 dit, « Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. » Et une petite note intéressante, que signifie le mot Éliashib? Éliashib veut dire Dieu veut restaurer. Même Dieu est cité. Dieu veut restaurer. Le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. L'élan de Néhémie, que Dieu lui avait donné, c'est transmis dans tout le peuple. Et si vous lisez tout le chapitre 3, vous allez voir tous les aspects du peuple. Vous allez voir des ouvriers, des orfèvres, des parfumeurs. Vous allez retrouver des ouvriers. Vous allez trouver des chefs qui bâtissent la maison, qui bâtissent le mur. Et ils ont chacun une partie du mur. Le peuple en entier met la main à la pâte. Dieu leur avait donné l'impulsion pour qu'ils bâtissent le mur. C'est un homme aussi, Néhémie est un homme qui était résolu devant l'adversité. Et il y en a eu des adversités. Pensez pas à quelque part que servir Dieu, ça se fait sans adversité. La journée que vous allez dire, Seigneur, où tu veux que j'aille avec toi, immédiatement, Satan, le monde et notre chair ne veulent pas que l'on fonctionne pour Dieu. Et vous allez avoir des adversités. Néhémie en a eu. Le peuple d'Israël en a eu des adversités. Il y a eu des railleries au chapitre 4 et au verset 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu. Et la solution de Néhémie a été au verset 4 et au verset 9, « Écoute, ô notre Dieu, et au verset 9, nous priâmes notre Dieu. » si la journée que vous vous faites railler parce que vous témoignez pour Dieu, la prière, l'arme du chrétien, la prière. Et ça a été l'arme pour Néhémie et pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Le découragement. Il se peut que vous ayez à vivre des découragements. Cependant, Judas dit, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ça ne marchera pas, notre affaire. Ah, c'est trop dur, c'est trop dur. Mais au verset 14, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Vous êtes découragés? Ça se peut. Il se pourrait que vous soyez dans des situations de découragement. Mais se retourner devant Dieu, se retourner vers Dieu et de voir ce que Dieu a déjà fait dans vos vies. Déjà que vous soyez sauvés, que vous ayez un avenir. Il y avait, j'aime lire les petits comiques, et je lisais une revue chrétienne, et il y avait vous savez, des petits comiques, 3-4 images avec des bulles. Là. Puis, le jeune homme qui disait à l'autre, il dit, dans le travail pour Dieu, le salaire n'est pas terrible, puis il dit, l'ouvrage est très dur à faire. Mais le plan de pension, par exemple. J'ai trouvé ça intéressant. Vous êtes découragé? Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il vous a promis. Chaque promesse de Dieu est pour vous, pour moi. Ça évite beaucoup de découragement. Il y avait des querelles, des dissensions dans le peuple. Au chapitre 5, au verset 7, il y avait des dissensions. Il y en a toujours des dissensions. Et on est des êtres humains, on est des pécheurs et on veut toujours la plus grosse barbe. Du gâteau. Il y en a toujours des querelles, des dissensions. Néhémie a pris position ferme. Il a réglé le problème au verset 11 et 12. Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons et le centième de l'argent, de blé, de mou, d'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Il y avait eu dissension et Néhémie a pris position. Il a pris une position ferme en sachant que Dieu était pour l'éclairer. Il y a aussi les ruses, ils ont affronté les ruses. Au chapitre 6, au verset 2, « Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Il avait médité de me faire du mal. » On la sent, la ruse. Je ne sais pas si vous la sentez, la ruse. Il y a quelques fois, je me suis laissé berner par des gens. Mais plus tu avances dans l'œuvre de Dieu, plus tu avances, plus tu prends de l'expérience, puis tu découvres les ruses. Néhémie l'avait découvert, cette ruse-là. Et il a utilisé la sagesse que Dieu lui avait donnée. Tous ces gens voulaient nous effrayer, ils se disent, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. C'est une prière. Et Néhémie a dit, Dieu, tu es capable de me rendre plus fort qu'eux. Donne-moi cette sagesse, donne-moi ce que j'ai besoin pour vaincre l'ennemi. C'était un homme qui était résolu devant l'adversité. Et Gabriel, un jour, je m'en vais chez lui, et puis il y avait eu quelques problèmes dans son projet, dans sa vision. Puis je le regardais, puis il me dit à un moment donné, j'ai dit, t'es-tu découragé? Il dit, je suis encore plus sûr que Dieu veut me voir là-bas. Je dis, oh, ouais. non seulement les épreuves qu'il avait ne le décourageaient pas, mais il l'encourageait à continuer. Il savait qu'il était de Dieu. Il savait que Dieu était pour répondre à sa vision. Qui est résolu devant l'adversité. La muraille était érigée en 52 jours. Chose impossible à l'homme. Au départ, c'est un projet impossible. Mais possible pour Dieu. Parce que pour Dieu, tout est possible. Il n'y a absolument aucune restriction. En plus de la grandeur de l'œuvre accomplie, ses ennemis, au chapitre 6 et au verset 16, intéressant à lire, 6, 16, lorsque tous nos ennemis l'apprirent que la muraille était levée, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. C'est important que l'œuvre qui s'était accomplie était par la volonté de notre Dieu. Néhémie et les gens d'Israël avaient compris qu'il fallait que eux se diminuent et que Dieu grandisse. Et c'est Dieu qui a ressorti. Les ennemis même ont reconnu que c'est Dieu qui avait travaillé, que c'est Dieu qui avait fait l'œuvre. Est-ce que c'est ce qui se passe lorsque vous accomplissez quelque chose? Est-ce que c'est Dieu qui a la gloire dans ce que vous faites? Ou si c'est vous? C'est important de se poser cette question-là. Est-ce que la gloire revient à Dieu dans ce que je viens de faire? Parce que c'est Dieu qui m'a formé, c'est Dieu qui me donne le vouloir et le faire. Et la gloire revient à lui, non pas à moi. C'est ce genre de phrase-là qui me fait réaliser quelque part que Dieu est beaucoup plus grand que ce que je peux même imaginer. Que Dieu peut faire de grandes choses dans ma vie et que je ne dépends que de lui. Et que c'est à lui qui va la gloire. Et ça devrait être ça dans nos vies. Et même si Dieu était concerné par le mur, il voulait que le mur soit érigé. Il est encore plus intéressé par le cœur des gens. Et il veut opérer un grand réveil dans son peuple. Et Dieu fait connaître, au chapitre 8, Dieu fait connaître le livre de la loi et le livre qui a fait connaître Dieu. Un réveil extraordinaire par la lecture de la parole de Dieu. De toute manière, tous les réveils se font par la lecture de la parole de Dieu. Le réveil dans mon cœur se fait par la lecture de la parole de Dieu. Le réveil dans cette assemblée se fait par la lecture de la parole de Dieu. Le réveil dans les petits, dans les grands groupes se fait par la lecture de la parole de Dieu. Que ce soit le peuple d'Israël, que ce soit nous, chacun de nous intimement, le réveil va toujours se faire par la lecture de la parole de Dieu. Et c'est un réveil immense, c'est un grand réveil. À 12 reprises dans le chapitre 8, il est mentionné que tout le peuple était ensemble, s'était uni, le peuple s'était mis ensemble. Tout le peuple s'assembla au verset 1. Tout le peuple fut attentif à la lecture au verset 3. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple au verset 3. Il était au-dessus de tout le peuple au verset 5. Et encore au verset 5, tout le peuple se tint en place. Et tout le peuple répondit au verset 6. Ceux qui enseignaient dirent à tout le peuple. Et à 12 reprises, jusqu'à la fin, où ce qu'il dit au verset 17, toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité. Le réveil s'est fait dans tout le peuple. Et tous les aspects de notre cœur, toutes les choses de notre vie vont se réveiller pour Dieu dans un réveil. On ne laissera rien au hasard. Dieu nous dit qu'un réveil se fait comme ça, par la lecture de la parole et par une unité. Ce que Dieu a fait à travers ces deux hommes-là, Esdras et Néhémie, a conduit tout le peuple à prendre un changement de carrière, un changement dans leur vie. Et ils ont promis. Tout le peuple était atteint. Tout le peuple a même célébré la fête des tabernacles, qui était la fête qui célébrait la sortie d'Égypte. Le réveil nous rappelle les choses que Dieu a fait dans nos vies aussi. Et les gens touchés se rappellent, et vous pourrez lire au verset, au chapitre 9, tout ce que Dieu, tout ce que le peuple a réalisé que Dieu avait fait pour eux. Et ils ne peuvent plus se contenir, et la grande description, et au chapitre 10, le peuple prend des résolutions. Le verset 29, ils promettent avec serment de marcher dans la loi de Dieu. Au verset 30, de ne pas donner les filles au peuple du pays et de ne pas prendre les filles du peuple pour leurs fils. Au verset 32, il va dire, il s'engage à donner un tiers de sicle au temple. Au verset 35, d'apporter chaque année la prémisse de leur sol. Au verset 39, de ne pas abandonner la maison de Dieu. Poussés par ce désir de vouloir servir Dieu, ils ont mis des promesses, ils ont fait des résolutions. Et j'ai mis le mot « résolution ». J'aurais pu mettre « promesse », mais j'ai mis le mot « résolution ». On commence le mois de février, on a à peine terminé le mois de janvier, et qu'est-ce qu'on fait au début de janvier? On prend des résolutions. En ce qui me concerne, je n'ai pas pris cette année, je sais ce que ça fait tous les ans. Ces hommes-là ont pris une résolution. Ils avaient un bon cœur. Ils avaient le désir de continuer. Ils ont décidé de ne pas abandonner la maison de leur Dieu. Ils ont décidé de changer leur habitude de vie afin qu'ils soient conformes à ce que Dieu s'attend d'eux. La parole leur a montré qu'ils devaient changer, puis ils ont pris cette résolution-là. Puis là, on devrait être heureux, on va dire « Waouh, c'est super, ça va bien. » Et non. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13, on ne la voit pas dans le livre, mais c'est une coupure. Du chapitre 11 au verset 13, c'est un siècle plus tard. Et ces hommes-là, un siècle plus tard, et malheureusement, leurs résolutions qu'ils ont prises ont été toutes lavées. Au chapitre 13, on voit au verset 5 qu'ils avaient disposé pour lui une grande chambre, c'est-à-dire pour Tobija. C'était un homme, c'était un ammonite, un moabite, qui ne devait jamais être entré dans la maison de Dieu. Mais il avait fait une chambre pour lui, pour cet homme-là, dans la maison de Dieu. La promesse avec serment de marcher dans la loi de Dieu était déjà faire un X. Un autre, au verset... Attendez, je crois que je l'ai... Un autre au verset 11, « Je ferai des réprimandes aux magistrats et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? » La maison de Dieu a été abandonnée. La promesse du verset 39 n'a pas tenu. Au verset 15, « À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat. » La loi n'a pas été respectée. Et au verset 25, je fis des réprimandes et les maudis, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. Cette promesse-là encore a été rompue. Lorsque je lisais, je me disais, comme c'est difficile d'être fidèle. Comme c'est difficile d'être fidèle. Et au verset 1 du chapitre 13, « Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. » La parole revient. Et la parole nous montre aussi nos péchés, nos fautes, nos écarts. Comme elle montrait ces hommes-là, leurs fautes, leurs écarts, leur manque de fidélité. Dans Proverbe 26, il dit, « N'importe qui est capable d'être bon. Mais trouver celui qui est fidèle, c'est très, très rare. C'est de la fidélité que Dieu nous demande. » Un homme disait il y a quelque temps, et ça m'a frappé aussi, la fidélité à Dieu, c'est la seule quête valable du chrétien. C'est la seule chose que le chrétien doit suivre, la fidélité à Dieu. C'est le seul but que le chrétien doit suivre, être fidèle à Dieu. On peut avoir des buts, on peut avoir toutes sortes de choses, mais demander à Dieu d'être continuellement fidèle à lui. C'est la chose la plus importante. De rentrer en soi-même et dire, « Seigneur, je ne veux pas prendre des résolutions, mais Seigneur, je veux être fidèle. Montre-moi comment être fidèle. Par moi-même, c'est impossible. Montre-moi comment être fidèle. Non pas prendre des résolutions, mais à tous les jours, de faire le chemin que j'ai à faire pour être fidèle. C'est ce que Dieu veut nous demander. C'est ce que Dieu veut que l'on lui demande. La bonne volonté, c'est bon la bonne volonté, mais la chair est faible. On doit revenir à lui constamment. Et une des choses pour être fidèle, c'est de connaître la volonté de Dieu qui est écrite dans son livre et de le prier constamment. Et cela tous les jours. Peut-être que vous êtes dans une période où ce que vous lisez moins, peut-être. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais si vous êtes dans ce genre de période-là, sortez-en immédiatement. Acharnez-vous à être fidèle dans votre lecture, dans votre prière à Dieu. C'est votre vie. C'est votre vie de chrétien qui en dépend. C'est la base. C'est la base. Mais c'est ça qui est important. Et Dieu ouvrira les écluses des cieux pour vous bénir. Et vous aurez été bénis de ce que vous avez été fidèles à Dieu. Soyez fidèles, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Transformés. D'être continuellement en train de changer, d'être transformé dans mon intelligence. Ce que je pense, et plus je regarde ce que moi je pense, plus je réalise que ce n'est pas ce que Dieu pense. Et je dois transformer mon intelligence. Puis je veux découvrir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Découvrir la volonté de Dieu et d'être fidèle. Merci Seigneur, car tu nous donnes d'être fidèles, tu nous donnes la capacité de pouvoir accomplir ce que tu nous demandes. Nous voulons s'en remettre à toi, Seigneur, ce soir. Nous savons qu'en nous-mêmes, nous sommes rien. Nous sommes incapables de faire ces choses-là. Toi, Seigneur, tu peux travailler nos cœurs. Que nous ayons cette prière, chacun de nous, rends-nous capables d'être fidèles. Donne-nous d'être fidèles pour toi, jour après jour. Et lorsque je m'écarte, Seigneur, ramène-moi à toi. Ramène-moi à ta fidélité. Cette prière, Seigneur, je voudrais qu'elle soit à tous les jours sur mes lèvres. Donne-moi, Seigneur, d'être fidèle à ton œuvre, fidèle à ta personne, afin que toi, Seigneur, tu sois béni dans l'œuvre que je vais accomplir pour ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Amen.